Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Copéglon, votre magazine 100% OGC Nice sur les antennes de BFM Nice Côte d'Azur. Le gym abonné au match nul, le quatrième consécutif en Ligue 1. Il a été ramené samedi soir face au Racing Club de Lens. Un but partout, score final. Ali Abdi, à 6 minutes du terme, a répondu à Alan Saint-Maximin. L'OGC Nice sort donc invaincu de l'enchaînement Lille-Marseille-Lens, qui ne l'empêchera pas de jouer sa survie face à Auxerre dimanche prochain. Les Bourguignons qui l'ont emporté contre Angers 3 buts à 1 et se rapprochent à 3 points du gym. Pour m'accompagner ce soir dans Copéglon, le titulaire indiscutable, Nico Nanigno est avec nous. Salut Nico.
Salut Sam, bonsoir à tous. On a hâte de voir l'issue du prochain match. Hein.
Commence un petit peu à avoir peur.
Non, je suis assez confiant en vrai. Ouais. J'ai hâte d'y être, mais je suis plutôt confiant.
Maxime Tillette est avec nous également, journaliste RMC Sport. Bonsoir Maxime.
Bonsoir Samuel, bonsoir à tous.
Confiant aussi comme Nico ?
Oui, plutôt. J'aime pas les gens qui se projettent que sur le scénario du pire. Si Nice perd avec la différence de but, Auxerre passe devant et dernier. Non.
Pas de calcul d'apothicaire.
Enfin, je préfère dans la position de Nice que dans celle de l'Auxerre.
Absolument, ça c'est une évidence. Et puis Guillaume Barmuse nous fait l'amitié d'être avec nous sur ce plateau de Copéglon. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Samuel, bonsoir tout le monde.
Comment ne pas vous inviter pour un Islande aussi?
Merci, c'est la question. Hein, oui, c'était très intéressant.
Effectivement, l'homme aux 563 matchs en professionnel, ça c'est en pro, mais 427 avec le maillot des 100 et or entre 92 et 2001. Vous étiez présent d'ailleurs à l'Alliance Riviera samedi pour voir cette rencontre. Au sommaire de cette émission, on va évoquer évidemment la rencontre entre Nice et Lens, soldée sur un match nul, un but partout, on l'a dit en première partie, et puis la deuxième divisée toujours entre les top flops de la rencontre et le focus consacré évidemment, vous l'aurez deviné, au match de dimanche 21h. L'OGC Nice se rend à Auxerre pour le compte de l'avant-dernière journée de Ligue 1. On vous l'a dit juste avant, 3 points séparent les deux formations au classement avec une différence de but largement supérieure en faveur des Bourguignons. Le gym n'est jamais allé au-delà de la 15e place actuelle. La Géosserre est dans la zone rouge, barrage compris, depuis le 28 octobre dernier. La GIA qui pourrait en sortir en 4 victoires dimanche. Le Nice va-t-il tout perdre sur ce choc pour rester dans l'élite? Voyez-vous le gym s'effondrer à la baie des champs? Élément de réponse avec mes invités en plateau dans ce 35e épisode de la 5e saison de Copéglon. C'est parti. Allez, nous on va prendre la direction de l'Alliance Riviera pour voir ce qui s'est passé entre Nice et Lens. Ces images de ce match comptant pour la 32e journée de championnat. Et sans doute le premier tournant du match, Antoine Mendy séché par Malangsar. Monsieur Léonard ne bronche pas l'ancien du gym qui était pourtant sous la menace d'un deuxième carton jaune. S'en sort très bien à l'heure de jeu. L'OGC Nice se retrouve complètement déséquilibré. Alan Saint-Maximin trouve l'ouverture du score après une sortie complètement insensée de Yevan Diouf. Et puis vous le voyez, rouge cette fois-ci pour le Racing Club de Lens, avec Saoul Abdoulhamid qui fauche Sofiane Diop, le coup franc en deux temps si on peut dire comme ça, avec Ali Abdi qui va égaliser pour finalement le point du match nul accroché par l'OGC Nice, un but partout. On va profiter de la présence de Guillaume Varmuse sur ce plateau pour tenter de comprendre ce qu'a voulu faire Yevan Diouf. On se dit même dans le stade, qu'est-ce qui lui est passé par la tête?
En fait, je pense qu'il s'est mis dans une situation qui était vraiment la pire pour lui. Il était entre deux. C'est-à-dire qu'il a voulu jouer plus haut, être proche de ses défenseurs, ce qui, à mon avis, était une très bonne idée, mais il était trop bas. Et à partir du moment où sa position était trop basse, le ballon a été dans un intermédiaire, et la mauvaise décision qu'il a prise, c'est d'aller jouer le ballon comme s'il était bien placé. Et derrière, j'ai envie de dire, il s'en sort aussi bien parce que si on regarde bien, il joue le ballon, il essaie de l'arrêter avec à la main, alors qu'il est en dehors de la surface de réparation. Je pense que de prendre le but, c'était peut-être aussi bien pour le GC Nice dans ce sens-là. Donc, ça n'enlève rien à sa qualité, ça n'enlève rien à sa personnalité, à tout ce qu'il a pu faire de bien. Mais sur ce coup-là, il est simplement un tout petit peu, je dirais, il lui manque peut-être 1 mètre 50 plus haut. Et au moment où le ballon tombe, à ce moment-là, il aurait pu jouer comme un défenseur, un libéro à l'ancienne, si on veut, ou un défenseur qui vient couvrir. Mais le fait d'être un peu trop bas, ça l'a fait déjouer. Et là où il aurait dû rectifier, c'est qu'il aurait peut-être dû être attentiste, voyant qu'il allait être court, peut-être faire un pas en avant, mais surtout revenir dans sa surface de réparation et attendre que Saint-Maximin vienne jouer le ballon.
Peut-être que ce but lensois ne serait pas arrivé si les 100 et or avaient été voulus à 10 dès la 35e minute. On l'a vu, Antoine Mendy séché par un autre pur produit de la formation niçoise, Malangsar, qui était sous la menace d'un deuxième carton jaune. Max, Nice qui pouvait être en supériorité numérique pendant 65 minutes.
Bon, ça ne veut pas dire pour autant que les Niçois auraient trouvé la faille, mais parce que j'ai trouvé que sur la fin de match où il y a eu cette supériorité numérique-là, tu n'as pas non plus réussi à te procurer la dernière occasion. Mais oui, c'est vrai que Malansart aurait pu prendre ce deuxième jaune. Le premier jaune intervient quelques minutes plus tôt dans une situation un peu floue. Ça aurait quand même été un peu surprenant de voir deux jaunes être sortis aussitôt. Ça s'est vu sur certains matchs, hein. Il y a eu des incohérences, donc parfois ça peut se produire. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre l'énervement. Et pour le coup, Claude Puel était foudrage dans sa zone technique et on peut le comprendre.
Oui, Nico, il y a un peu de débat sur cette décision, sur cette clémence de M. Léonard. C'est encore une décision qui est en défaveur de l'OGC Nice, mais qui est conjoncturelle à l'arbitrage français en Ligue 1.
Je pense qu'il ne le met pas parce qu'il sait que le premier, il est sévère. Si le premier carton jaune était dû à une faute qui justifiait ce carton jaune, peut-être qu'il serait revenu sur sa décision ou qu'il aurait agi autrement. Après, ouais, comme l'a dit Maxime, je ne pense pas que ça soit un tournant du match non plus, parce que quand on a été un de plus, on n'a pas non plus été hyper dangereux, même si on avait d'autres joueurs sur le terrain à ce moment-là. Mais c'est la réaction collective qu'il faut retenir. On n'a pas sombré une fois de plus. Et ça, c'est une grosse force sous Claude Puel. Donc on va plutôt retenir ça que cette petite incohérence.
Depuis quelques matchs. Parce que sur Claude Puel, on se souvient par exemple du match à Strasbourg, où il y a ces trois buts pris en quelques minutes, où Nice s'effondre totalement et s'arrête de jouer. Là, pour le coup, c'est vrai que depuis ce match-là, où ça a été vraiment l'électrochoc, il y a eu ce match plus compliqué face au Havre. Mais derrière, ça t'a permis vraiment... Alors tout le monde a pris conscience et est impliqué dans la mission maintien. Et pour le coup, on a retrouvé une équipe vraiment unie, solidaire, qui travaille et qui petit à petit se remet à se projeter et à jouer davantage vers l'avant.
Bien sûr, on va faire un premier tour de table de la soirée. Est-ce que ce match nul, il est plutôt frustrant pour vous ou finalement plutôt logique au vu de ce qu'on a vu sur les 90 minutes de cette rencontre? Frustrant ou logique, Nico?
Il est assez logique.
Guillaume?
Moi, je trouve que c'est plutôt, il est plutôt frustrant pour les Niçois.
Plutôt frustrant, ouais. Maxime ?
Non, pas de frustration.
Pas de frustration. Pourquoi de la frustration, Guillaume, sur ce que
Parce
vous avez
que sur
vu,
ce que vous venez de dire, vous avez raison. Mais si on a un point de vue un peu plus, j'ai envie de dire, précis et cru sur le jeu, pour moi, Sarr doit être expulsé. Pour moi, c'est un tournant de match parce que c'est 40e, c'est ça, hein, enfin, 35e. Et jouer à 10 contre 11 avec ces Niçois-là qui ont renversé la tendance. Alors qu'ils jouaient à 11 contre 11, alors qu'ils étaient menés, alors que le gardien était un petit peu juste. Et il y avait tout pour s'écrouler il n'y a pas si longtemps. Et si on vous disait que cette tendance-là a été inversée, si on remet le scénario en jouant à 10 contre 11, c'est pour ça que Puel, lui, qui connaît très bien le football, était complètement énervé, parce que c'est pour moi un tournant. Si à 10 contre 11, ce Nice-là avait continué d'attaquer, quid de mes amis Lensois? Donc pour moi, je crois qu'il y a une vraie réflexion. Alors c'est pas frustrant au sens le match devient comment dire, le résultat et le contenu devient favorable à Nice dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils inversent la tendance. Mais je pense que la décision d'arbitrage, c'est pas évident aussi, comme vous l'avez souligné, mais quand même, il y a une belle faute de la part de Sarr.
Nice qui vous a surpris, on y reviendra plus tard dans l'émission, Guillaume. Pas franchement de frustration pour vous, Nico.
Au contraire, moi j'en ressors avec pas mal de positifs, parce qu'on a tenu tête à l'une des meilleures équipes de France dans le jeu. On a retrouvé, même si ça fait quelques matchs qu'on le voit, de vraies valeurs de solidarité. Défensivement, on a été costaud. On a été largement meilleur qu'à Marseille avec ballon. À Marseille, c'est bien, on a été costaud, mais c'était quand même compliqué. On n'arrivait pas à la ligne 3 passes. Là, ça n'a pas été le cas. On a même fait des séquences, je trouve, de possession qui ont été très intéressantes, avec, selon moi, nos deux meilleurs joueurs absents, Klos et Wai. Donc on envoie un premier message aussi pour la finale, mais aussi on se prouve à nous-mêmes qu'on est capable dans le jeu de produire autre chose que simplement mettre un bloc très bas, et ça doit nous servir dès dimanche contre Auxerre.
As-tu une logique pour vous,
oui,
Max?
Logique et plutôt rassurant, parce que dans le contenu, c'est dans la continuité des dernières sorties, avec en effet un peu plus de liant et de jeu et de maîtrise avec le ballon, alors qu'on sait pourtant que ces Lensois sont aussi très forts dans ce travail au pressing, au contre-pressing. Donc rassurant, évidemment, si on se projette sur la finale de la Coupe de France face à ce même adversaire, avec normalement d'ici là les retours de Wai et de Klos. Voilà. Et puis après, je ne sais pas si ce point, on verra à la fin s'il aura un immense impact sur l'issue de cette saison, mais en tout cas mentalement c'est bien de poursuivre, de garder cette série d'invincibilité et d'avoir su retourner le score un petit peu.
Il y en a un autre qui pense que c'est frustrant, c'est un certain Melvin Barr qui était à votre micro, Maxime Tillet, on l'écoute.
Il y a un peu de frustration parce que je pense qu'on prend un but un peu évitable. Sur ça déjà, il y a un peu de frustration. Mais il y a aussi de la joie un peu, parce qu'on savait que ça allait être compliqué. On savait que c'est le deuxième de Ligue 1, donc on savait que ça allait être un match difficile et on a su remonter. au score. Donc ça montre qu'on a du caractère et qu'on ne lâchera pas.
Vous avez dit qu'il y a eu mal à l'issue de la rencontre. Je suis surpris par cette équipe de l'OGC Nice et surpris qu'elle soit dans cette position au classement. Ouais. Vous qui suivez plutôt le Racing Club de Lens, ça vous a fait une très bonne impression.
Oui, sur ce match-là, moi, je partage complètement ce que vous avez dit, mais je pense qu'il ne faut pas minimiser la vraie performance de Nice. Surtout, moi, j'ai vu le contenu du jeu quand je regarde la créativité. D'abord, l'intensité défensive. Lens a eu très peu d'occasions. Il faut d'abord le souligner. Vous qui sans cesse disiez que vous preniez des buts.
On était critiques sur ce match.
Mais c'est à juste titre. À juste titre. Là, Lens a eu pas beaucoup d'occasions. Il y a eu une agressivité défensive de la part de toute l'équipe. Le collectif est d'abord à souligner. Et ça, c'est très important pour la suite, et notamment le déplacement. Vous en parlerez en fin de semaine, pour la fin de semaine. D'abord ça, et puis l'aspect du jeu aussi. Il y a eu des séquences de jeu où, malgré le fait que Lens a joué plutôt haut, voire un bloc médian, mais est allé chercher les Niçois qui ont réussi à sortir nombre de fois avec un Lyon, a réussi également à l'image de l'expulsion, du deuxième carton jaune qui peut être... Moi, je trouve qu'il y a une vraie belle performance dans ces deux aspects.
Et l'entraîneur du Racing Club de Lens, Pierre Sage, partage le même avis que vous, mon cher Guillaume. Un confrère nordiste trouvait que Lens n'affichait plus la même confiance samedi au terme d'un match poussif. Écoutez sa réponse.
Je pense que c'est lié à notre adversaire qui aujourd'hui était très regroupé, très bien organisé, qui laissait peu d'espace. On a eu du mal à se coordonner pour les déséquilibrer. On a du mal à gérer les rythmes de jeu, les moments où il fallait accélérer, les moments à l'inverse où il fallait calmer. Et du coup, on était dans un faux rythme lorsqu'on était en attaque placée et un rythme trop soutenu lorsqu'on était en attaque rapide, ce qui nous a fait perdre beaucoup de ballons dans les deux cas. Et je pense en fait que c'est lié à la performance de nos adversaires de ce soir.
Ce Nice-Lens qui était une sorte de répétition avant la finale de Coupe de France du 22 mai prochain. Guillaume, aucune Coupe de France, on le rappelle, pour le Racing Club de Lens. C'est une anomalie quand même pour un club historique quand même du football français. Dans le Nord, elle est attendue. J'ai envie de dire très très attendu cette finale, j'imagine.
Ouais, très attendu, c'est de mauvais souvenirs. Hein. Là-bas, c'est le peuple lensois a une mémoire, je dirais, qui est immémoriale, qui nous rappelle sans cesse quand on va là-bas, on a l'impression qu'on est toujours joueur. Enfin voilà, ils se souviennent de tout, des finales en 76, bon, ça paraît à des années-lumière. Ils rappellent de notre finale perdue aussi. Donc c'est vrai que c'est trois finales perdues, et les supporters, ça fait quelque chose que le fait de ne pas avoir gagné la Coupe de France encore au Racing Club de Lens.
On en tire des conclusions de ce Nice-Lens par rapport au match de Coupe de France, parce qu'on a aussi eu le contre-exemple de Strasbourg-Nice où la vapeur s'est renversée, Maxime.
Oui, parce que ça montre quand même des ressources et pour le coup, on n'avait pas forcément été habitué ces dernières semaines, ces derniers mois à voir un Nice. Voilà. Alors Nice n'a encore jamais gagné cette saison après avoir concédé l'ouverture du score. En tout cas, ces dernières semaines, on a vu que Nice était capable de renverser un score, enfin du moins d'aller trouver les ressources pour trouver la faille dans le bloc adverse, même en n'ayant pas forcément énormément d'occasions, en essayant, en tout cas on voit dans la mentalité, dès qu'il y a une touche pas très loin de la surface, allez, ballon dans la surface, un coup franc à la ligne médiane, attendez, on pose le ballon, on fait monter les grands et on essaye de mettre la pression chez l'adversaire. On a du mal à ressortir, petit ballon par-dessus, contre-attaque, on essaye. Et c'est ce qui a été aussi le plan pour Claude Puel face à Lens sur ce match-là, où il a privilégié un Mohamed Ali Chaud qu'on attendait peut-être encore plus dans la profondeur. On en reparlera peut-être dans les top et flop. Mais en tout cas, voilà, tu as une base de travail sur laquelle t'appuyer. Et je pense que pour aller à Auxerre, c'est le genre de match... pas référence, mais tu t'en approches en tout cas sur ces dernières semaines avec les performances aussi à Strasbourg en Coupe de France.
Petit point composition d'équipe d'ailleurs avec Claude Puel qui a été un petit peu plus offensif samedi soir, notamment avec ce trio d'attaque devant Diop, Chaud, Boudage. Seul autre changement, la titularisation de Tom Louchet à la place de Jonathan Clauss, blessé au ménisque. On va parler évidemment de Kyle Boudèche parce qu'on ne l'a pas dans les top flops avec toi Nico, qui devrait s'engager avec l'Olympique Lyonnais. On l'a pris pour trois saisons, on l'a pris en milieu de semaine par le journal de l'équipe. Prévisible finalement tout ça.
Oui, c'était avant qu'il fallait se réveiller, je pense. On va attendre que ça se finalise quand même, parce que tant qu'il y a de l'espoir, on va y croire. Après, je trouve quand même que c'est une grosse perte pour le gym, surtout dans ce nouveau projet qui semble se dessiner, où on va faire confiance un peu plus aux jeunes. Le message envoyé, il n'est pas top, tu perds ton plus gros prospect. Mais ça fait 2-3 ans qu'il fallait se positionner sur lui. Sans Puel, il ne serait jamais sorti à Nice. Donc après, certains diront que c'est aussi un petit peu pas correct de sa part de s'engager à Lyon, de ne pas redonner de pas retendre la main à son club, mais voilà, je pense qu'il y a des infos qu'on n'a pas aussi. On va profiter de lui jusqu'à la fin. Il nous a encore fait du bien, je trouve, contre Lens sur certaines phases de jeu, même s'il a un petit peu disparu au fil du match, ce qui est logique. Mais en tout cas, il a encore beaucoup apporté jusqu'à la fin de saison.
C'est vrai que le projet est quand même bien plus clair et limpide du côté de Lyon qu'aujourd'hui du côté de Nice, où ça reste quand même assez flou sur l'avenir. Et puis quand même, ça se fait dans tous les clubs. Il ne faut pas non plus tirer sur l'OGC Nice parce qu'il y a l'un ou le meilleur jeune de ton centre de formation qui va rejoindre un concurrent. Quand Badreddine Bouanani quitte Lille pour venir à Nice, derrière, c'est Nice qui fait une bascule et qui le vend l'été dernier. Enfin voilà,
ça, ouais, mais Lille est capable de sortir des joueurs que nous, on ne sort pas. Tu vois, là, c'est la première fois que tu as vraiment un talent sur lequel tu dois capitaliser. Malheureusement, tu le fais pas, donc c'est ça qui est regrettable.
C'est le jeu, effectivement. Restez bien avec nous. La deuxième partie de Coupe et Gloire arrive très vite avec les top flops. À tout de suite. De retour sur le plateau de Copéglon pour revenir sur ce match nul entre Nice et Lens, un but partout. Il est temps de distribuer les bons, les mauvais points. Vous en êtes habitués dans les top flops tout de suite dans Copéglon. Hicham Boudaoui dans les tops, Nico, ça faisait longtemps qu'il n'avait plus fait partie de vos grâces du lundi soir.
Bah, il est mieux, je trouve, depuis quelques matchs. Et je pense que c'est aussi lié à ça, qu'on est aussi performant défensivement depuis quelques matchs. Quand il est à ce niveau-là, je pense sincèrement qu'il n'y a pas beaucoup de milieux à son poste en Ligue 1 qui sont capables de lui tenir tête. Je le trouve très fort sous pression. Techniquement, il est très juste. Il couvre un nombre d'espaces incalculable. Il court beaucoup de kilomètres. Et il paraît infatigable. Et pourtant, en face, il avait quand même deux gros, gros clients. Sangaré, qui est peut-être pour moi l'un des meilleurs joueurs de la saison. Thomasson, qui sort une saison stratosphérique. Et lui, leur a tenu tête. Il a permis aussi au gym de trouver cet équilibre entre les phases de transition, les moments où tu récupérais le ballon. Je trouve qu'il fait du bien à tout le monde. Et en tout cas, si son histoire à Nice doit se terminer comme ça et pas autrement.
Medine Bar en flop, c'est un petit flop.
Ah, c'est vraiment un petit flop parce que... Moi, j'en ai marre de le voir réaliser ce même geste à chaque fois, ce ballon sur la ligne de touche. J'ai l'impression qu'il n'a que ça en stock. Après, c'est un guerrier, tout ce qu'on veut, mais il faut utiliser le pied droit parfois. Il faut prendre plus de risques avec ballon. Il en est capable. C'est sa quatrième ou sa cinquième saison en Ligue 1. Ça devient un cadre. C'est lui aussi, à un moment donné, de franchir ce cap qu'il n'arrive pas à franchir jusqu'à présent. Mais bon, c'est un petit flop parce qu'à l'inverse, il gagne beaucoup de duels, il se bat et quand tu joues le maintien, il en faut des joueurs comme ça.
Guillaume en parlait en début d'émission, on l'a pas assez peut-être mis à l'honneur, cette défense de l'OGC Nice, Maxime avec vous et Antoine Mendy.
Ouais, alors c'est lui parce que c'est un peu le capitaine, j'ai l'impression, de cette défense, du moins de cette charge, enfin ce trio défensif avec Djoumaba et Kodjo Peprahopong, ce trio qui s'est installé depuis quelques matchs et qui fonctionne plutôt bien. Et lui en est le symbole parce que formé à Nice, ça fait des mois qu'on le voit évoluer, progresser, être présent dans les duels, en l'air comme au sol. Il passe aussi un peu des steps avec le ballon dans les pieds aussi. Et donc, c'est rassurant. Et lui, pour le coup, il est engagé et est sous contrat encore pour un petit moment avec l'OGC Nice. Donc, voilà, c'est vrai que c'est rassurant et il le mérite parce que, à son retour de la CAN, il a eu du temps avant de pouvoir retrouver sa place de titulaire. Il était titulaire sous Francaise et Claude Puel a dit bon, on laisse les joueurs qui ont plutôt performé au début de l'aventure Puel à son retour. Donc voilà, il a dû se battre pour récupérer sa place. Il l'a fait, il l'a obtenu et il s'est installé comme un taulier désormais.
Et en flop, un joueur qui agace, très agaçant, Mohamed Ali Chou.
Voilà, tout est dit. Non, mais c'est vraiment un joueur qui est sur courant alternatif, capable de faire... un éclair, deux éclairs de génie dans un match et de disparaître pendant quelques semaines. Et c'est frustrant parce que c'est un joueur qui est pétri de talent, il a des qualités, c'est indéniable. Et pour le coup, il a une situation face au but où sur son pied droit, il la prend mal. Alors c'est contré derrière parce qu'il y a le retour du défenseur, mais il y avait quand même mieux à faire. Et quand bien même il y a le retour du défenseur, le ballon sort pas vraiment de sa chaussure. Enfin, c'est vrai que c'est frustrant parce que on sent. Enfin voilà, c'est un joueur qui est revenu il y a un an et demi en Ligue 1 et qui et pour 10 millions d'euros à peu près, quelque chose un peu plus que 10 millions d'euros, il y avait quand même beaucoup d'attentes autour de lui et pour le moment c'est quand même assez mitigé. Mis à part sur une certaine période où ça marchait plutôt bien entre lui et Evan Guessant. Où c'était plutôt lui d'ailleurs qui jouait faux neuf et Guessant plutôt sur le côté droit où ça marchait bien la saison dernière avec Francaise. Je trouve qu'on a quand même du mal à le trouver vraiment dans la continuité cette saison.
Ouais, décevant, Mohamed Ali Chou. Celui qui n'a pas déçu en revanche, c'est Ali Abdi. Guillaume, c'est vrai, admirable ce but, plein de caractère comme ça en sortie de banc.
C'est ça, sortie de banc, et puis quand on regarde bien, il faut être là, il faut être présent. C'est improbable sa situation où il est là, mais il est là, il est tout de suite.
C'est pas une combinaison ?
C'est une combinaison, je vais
pas travailler
avec le mur, voilà, une, deux. Mais en tout cas, il a déjà été. C'est récurrent, parce qu'il avait fait contre Brest, si mes souvenirs sont bons. Enfin voilà, il y a eu quelques actions comme ça, mais en tout cas, il est là présent, il rentre, et donc justement, l'égalisation est logique sur le contenu du match pour le GC Nice.
Et pas de flop pour Guillaume, parce que Guillaume a tous les droits sur ce plateau. Vous pouvez vous permettre aussi de ne pas avoir.
Je ne peux pas mettre un flop sur mes confrères.
La météo du jour, peut-être.
Voilà, c'est ça. La météo, voilà, il fait beau. Ah, il y a un peu de nuages en ce moment.
Allez, focus de Copéglon tout de suite. Allez, je vais vous rappeler les enjeux, puisque le focus est consacré au match de dimanche 21h. L'OGC Nice se rend à Auxerre pour le compte de l'avant-dernière journée de Ligue 1. 3 points séparent les deux équipes au classement avec une différence de but largement supérieure en faveur des Bourguignons. Le Gym n'est jamais allé au-delà de la 15e place actuelle. La Géosserre est dans la zone rouge depuis le 28 octobre dernier. C'est la date d'ailleurs de la dernière victoire à domicile de l'OGC Nice. La GIA qui, en cas de victoire, pourrait dépasser le Gym au classement. Messieurs, est-ce que l'OGC Nice va tout perdre dans ce choc pour rester dans l'élite? Voyez-vous le Gym s'effondrer à la Baie des Champs sans potentiellement Eli Wahi et sans Jonathan Clauss, oui ou non? Nico?
Non.
Max?
Non.
Et Guillaume?
Non.
Non plus. Optimisme engagé et assumé ce soir sur ce plateau de Copéglon. Pourquoi non, Max?
Parce que le contenu des dernières semaines est plutôt rassurant et qu'il faudra mettre exactement les mêmes ingrédients ce week-end. On va voir au fil de la semaine, il y a un petit espoir tout de même de retrouver, alors peut-être plus Jonathan Clauss qu'Eli Wahi, mais il est aussi probable que les deux soient de retour. Eli Wahi a impressionné quand il avait été blessé à la cheville, sa capacité pour se rétablir plus vite que les autres a été constatée par tout le monde, et son envie aussi de revenir à aider le club avait été constatée. Donc voilà, sur le coup, il voudra aussi contribuer sur ce match très très important. 3 points d'avance, un nul suffit. Donc c'est à Auxerre de faire le job, de se découvrir, de jouer, de prendre des risques. Et Nice va savoir exploiter ça à merveille parce qu'ils ont su le faire ces dernières semaines face à Strasbourg, face à Lille, enfin face à Lens là. Donc voilà, dans la continuité, il faut reproduire les mêmes choses. Et voilà, comme je le disais en début d'émission, j'ai pas envie qu'on se projette tous sur le scénario catastrophe. On le sait, on l'a tous déjà imaginé. Et quand bien même cela se produisait, faut pas qu'il y ait le feu parce qu'il y aura encore une dernière journée face à Metz, qui a déjà été relégué. Alors c'est pas parce qu'ils n'ont plus rien à jouer qu'ils vont venir en touriste. Mais voilà, il y aura toujours une dernière cartouche quand dans le même temps, Auxerre devra aller à Lille et Lille devra valider peut-être une qualification européenne.
Il nous reste pas beaucoup de temps, Guillaume, on l'a compris, hein, vous tous, vous pensez que le GC10 va quand même assurer le coup face à la Auxerre. La Baie des Champs, vous y avez joué un nombre incalculable de fois, ouais. Hein, sous Giroud, évidemment, côté AGR.
98 aussi,
comment bon souvenir. 98, bon souvenir, champion de France là-bas. Ouais.
Comment il est ce stade quand on est joueur? Est-ce qu'il peut avoir un facteur à Baie des Champs dimanche?
Du temps de Giroud, oui. Maintenant, Auxerre est redevenu, je dirais, une équipe voilà, qui plutôt bataille. Bataille pour se maintenir, monte, descend, monte. On les a plus vus dans le haut du classement depuis. Ça fait longtemps. Non, pour être complémentaire de tout ce qui vient d'être dit, moi je suis plutôt optimiste dans le sens où aller chercher une qualification à Strasbourg alors que Nice était déjà battu d'avance, être mené contre Marseille, revenir, être mené contre Lens, revenir. Donc il y a du caractère et puis surtout il y a un vécu commun là. S'il n'y avait pas ce vécu là dernièrement, là ce serait plus inquiétant si on sentait. Non, et au contraire, je trouve que le retour de cette fin de match contre Lens, je reviens dessus, ça donne énormément de confiance à tout le monde et je crois que là la Claude Puel va s'appuyer sur ça pour aller chercher au moins le match nul à Auxerre.
C'est mon rôle de vous mettre en garde quand même, messieurs. Attention à l'approche aussi des Bourguignons. On va voir le classement pour illustrer un petit peu cette situation. On dit qu'ils sont focalisés sur cette 15e place, mais il faut aussi conserver sa position actuelle de barragiste. Alors certes, Nantes est à 5 points et se déplace à ça. Non, là, on voit le calendrier. Il faudrait la deuxième partie du classement. Nantes est à 5 points et se déplace à Lens, mais en cas de victoire, les Canaries reviendraient à 2 points si dans le même temps, la GIA venait à s'incliner dimanche. Auxerre qui se déplace ensuite à Lille lors de la dernière journée. Nico, muscler l'entrejeu, laisser peut-être la possession à l'adversaire, agir en compte, ce seront aussi des clés, même face à Auxerre.
Oui, parce que comme l'a dit Maxime, c'est eux qui vont avoir à se découvrir et à faire le job parce que ben, on est dans la meilleure situation par rapport à eux. Donc s'appuyer sur ce qu'on fait très bien depuis quelques matchs, arrêter de vendre la peur surtout. Je pense qu'il y a une prise de conscience depuis quelques semaines. On a été suffisamment critiques tout au long de la saison et à juste titre pour ne pas tenir des propos élogieux quant au changement d'attitude depuis quelques semaines. Et je pense que s'il y a bien un moment où que ce soit le coach, les dirigeants, les joueurs méritent qu'on soit derrière eux, c'est en ce moment. Ils nous l'ont prouvé depuis quelques semaines, c'est pas parfait, mais au moins ça triche pas, ça triche plus. Donc non, il faut être confiant. Moi, je pense même qu'on va aller s'imposer là-bas et qu'on va assurer notre maintien et que ça va donner beaucoup de confiance pour le 22.
La JOCR, Max, c'est 3 défaites depuis le mois de février, 11 buts marqués sur leurs 6 derniers matchs, à l'heure où les Bourguignons est parti plutôt des mauvais élèves offensivement. Il y a du mieux quand même côté la JOCR.
Ouais, voilà, pour le coup, il y a eu un succès assez probant face à Angers, même si on pourrait là aussi parler peut-être d'arbitrage.
Oui, enfin, on peut,
c'est encore autre chose.
C'est scandaleux là, ce qui s'est passé.
En attendant, bon, le joueur en question sera là, il n'y a pas eu de sanction. Enfin,
c'est quand même.
Mais c'est une équipe qui n'a pas lâché, en tout cas. Ces dernières semaines, il y a eu plusieurs opportunités où ils n'ont pas fait le job pour prendre davantage de points. Et je pense que c'est plutôt là-dessus où seront les regrets pour les Bourguignons.
Je pense que c'est toujours, pour compléter, pour terminer, c'est toujours délicat d'aller jouer à Auxerre. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Il y a toujours un mémorial de jouer contre la GIA. Mais il faut regarder les deux forces en présence. Et aujourd'hui, ben Nice a quelque chose à faire valoir là-bas.
Pas de déconcentration vis-à-vis de la finale, non?
Non, je pense que si on est joueur professionnel, au contraire.
Parce que vous l'avez vécu, c'est pour
oui,
ça.
Oui, au contraire, là, je pense que tout le monde, là, s'il y a un match, j'ai envie de dire, qui va être. Et qui va embellir le second pour la finale, ça va être celui-là. Imaginez-vous que si Nice venait à gagner à Auxerre, ce serait vraiment une confiance suprême. Et donc là, à ce moment-là, la finale serait préparée dans les meilleures conditions.
Et les titulaires face à Auxerre devront valider leur place de titulaire face à Lens. Donc s'ils sont bons face à Auxerre, ils joueront la finale et c'est magnifique.
Effectivement. Avant de se quitter, messieurs, petite communication autour de l'OGC Nice jusqu'à jeudi. La place Passéna accueille la 19e édition de la collecte du don de sang en Roger Noir. Le résultat du partenariat entre l'OGC Nice, l'établissement français du sang et la ville de Nice, 552 honneurs sont attendus. Vous pouvez réserver votre créneau entre 13h et 18h sur dondesang.efs.sante.fr. Objectif, répondre aux besoins constants des établissements de santé en produits sanguins labiles. Merci beaucoup messieurs de m'avoir accompagné. Merci. Ce soir. C'est la fin de Copéglon. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, 19h, lundi. D'ici là, passez une très très belle semaine.